Destine que vous allez suivre est une rediffusion.
Littérature sans frontières, une terre, un auteur.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Destination la Guinée.
Bonjour à toutes et à tous. Comment raconter les horreurs de l'histoire quand sa mémoire a été confisquée au peuple? Comment dire aujourd'hui la barbarie d'hier? Comment regarder en face le passé pour enfin avancer? Toutes ces questions se posent entre les lignes du nouveau roman de notre invité. Une fiction qui, à travers deux femmes de notre époque, revient sur un épisode tragique, l'existence d'un lieu inhumain et que d'aucuns voudraient peut-être effacer. Bonjour Thierno Monnet-Nambo.
Bonjour.
Dans votre œuvre, récompensée par le Grand Prix de l'Afrique noire, le Prix Renaudot, le Prix Amadou Kourouma et le Grand Prix de la francophonie, arrive ce nouveau roman, publié sous le titre « Saharienne Indigo » aux éditions du Seuil. La rencontre, je le disais, entre deux femmes à Paris, une Guinéenne en exil et une Française qui a très bien connu la Guinée et qui, l'une et l'autre, en miroir, sont les rescapés du camp B. B comme Boireau. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler, Thierno Monnet-Nambo, ce qu'est ce camp dans l'histoire de la Guinée?
Mais le camp B dans ce roman, c'est le camp Boireau dans la réalité guinéenne. C'est notre Orchus à nous, notre goulag tropical. C'est le camp où Sékou Touré a tué plus de 50 000 personnes par diète noire. Cela veut dire qu'on vous emprisonnait dans une petite cellule. Il y avait une petite lucarne. On vous laissait là, sans boisson, sans nourriture, pendant 15 jours. Personne n'a survécu plus de 15 jours. Le plus robuste, il y en a qui mouraient au bout de 7 jours. Ou alors pendant des zones publiques. Et ce qui est terrible en Guinée, vous savez, les criminels ont un talent, c'est d'effacer les traces de leurs crimes. Il n'y a plus aucune trace du camp Boireau. Ils ont construit des villas à l'intérieur du camp Boireau. Ils ont construit un pont là où on pendait les gens. Aucune stèle, aucune trace. Et maintenant, ils sont en train de rebaptiser l'aéroport de Conakry du nom du bourreau Sékou Touré, du sanguinaire Sékou Touré. Tout cela fait que notre histoire était faussée. Tout cela fait qu'il y a une confusion dans la mémoire collective guinéenne qui fait que l'avenir est trouble, l'avenir est sombre à cause de quelques imbéciles. Et le camp Boireau, c'est quelque chose de terrible parce que c'est un peu le symbole même de la répression en Afrique. Ça commence là. La Guinée a été le mauvais exemple tout le temps. Nous avons été le premier pays à créer le parti unique, c'est nous. Les premiers camps de concentration, c'est nous. Et les premiers plans de zone publique, c'est nous. Et voilà. Et on en est encore là. Ça, on ne sort pas. Il y a le patinage historique chez nous. On ne sort pas de cette boue-là, de cette boue sécoutouréenne. Et c'est comme si l'histoire était condamnée à se répéter. Comme si la tragédie était condamnée à se répéter.
Et c'était entre quelle date exactement?
Le camp Boireau commence. Il y a eu d'autres camps avant. Il y a eu le camp Alpha-Aïa, où les premiers prisonniers politiques ont été emprisonnés. Je parle des premiers syndicalistes qui ont fait la grève en 1961, Mandian Keïta, Djibril Tinian, Ibrahim Akaba, Bamotaga et d'autres. Mais en 1967, le camp Boireau a été créé. Il a été créé artificiellement.
En 1967.
67, par les Tchécoslovaques. C'est les Tchèques qui l'ont créé. Et excusez-moi très bien, le camp Boireau est une ruine artificielle. On a créé une ruine artificiellement, une architecture de la torture. On a créé des taudis pour que l'eau s'infiltre de façon très précise dans les cellules des condamnés, que les moustiques entrent par cette porte-ci et pas par cette porte-là, et que les odeurs arrivent, que vraiment la torture soit permanente. J'ai jamais vu ça, une ruine artificielle.
Et quand est-ce que ça a été fermé?
Ça a été fermé à la mort de Sékou Touré, en 1967. Mais ils ont cassé toutes ces cellules où les gens sont morts. Ils ont construit des villas à l'intérieur pour loger les policiers guinéens.
Quand vous avez fui la Guinée en 1969, vous aviez connaissance de l'existence du camp Boireau?
Je vais vous raconter une chose, madame. Je ne le savais pas du tout. Je savais qu'il y avait un camp Boireau. Je pense que c'était le camp de la garde républicaine. En face, il y avait un bar où j'allais souvent. Il y avait la musique, ça s'appelait le palmier. J'allais souvent danser là. Je ne savais pas du tout que de l'autre côté, on torturait. Je ne savais pas du tout en 1969. En pleine ville de Conakry, en pleine ville, on torture les gens. Ce n'est pas à l'extérieur de la ville, c'est au centre-ville. Je ne savais pas du tout que ce camp était un camp de torture. Pourtant, je dansais là. J'étais jeune, j'avais 22 ans. Il y avait un bar qui s'appelait Le Palmier, où venait souvent jouer un des grands musiciens guinéens qui s'appelait Kilitigi Traoré. Et je ne savais pas qu'en face, on tuait, on torturait.
D'où la nécessité de raconter. Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire aujourd'hui d'écrire sur ce sujet Tiananmen et Ninbo? Parce que vous aviez peur qu'il soit oublié, que le temps passe?
Bien sûr, il est déjà oublié. Ils ont tout fait pour qu'il soit oublié. Mais et comme en même temps, nos historiens n'ont jamais fait leur boulot, je me suis dit qu'il faut que les écrivains pallient leur insuffisance. Le roman est formidable parce qu'il est porté sur la durée. Quand l'écrivain parle, ça traverse les siècles. Quand l'historien parle, c'est pour quelques instants. Et il faut parler de ce Kambwaru, parce que c'est notre histoire, c'est notre douleur, notre non-dit. Et sans une histoire complète, précise de tout ce qui se passe au Kambwaru, il n'y aura pas d'avenir en Guinée. Le non-dit n'est pas une stratégie de devenir. Et tout le monde le sait, l'Europe a connu le nazisme, Auschwitz est là. Il a fallu raconter Auschwitz quand même. Pas seulement par les Juifs, mais aussi même par les bourreaux parfois. En tout cas, l'Allemagne a essayé de nettoyer sa mémoire là-dessus. Il faut que nous aussi, on nettoie notre propre mémoire. Sans l'hygiène de la mémoire, il n'y a pas d'avenir. Or, les Guinéens refusent l'hygiène de la mémoire. Et ça, c'est grave pour l'avenir.
Mais est-ce que ce roman est né aussi parce que la mémoire a été ravivée par des témoignages peut-être de personnes qui ont survécu et qui enfin osent en parler?
Il y a eu beaucoup de gens qui ont raconté leur séjour au Kambwaru. Il y a au moins une dizaine de livres. Le plus célèbre, c'est de Jean-Paul Alata, Prison d'Afrique. C'est un Guinéen, un blanc d'origine, mais Guinéen. Il a été même ministre de Sékou Touré. Il a vécu quelques années au Kambwaru, puis il est sorti de prison. Il y a eu d'autres, il y a eu une dizaine d'essais de témoignages. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut quand même l'apport de la fiction. La fiction est le meilleur des témoignages. Parce que la fiction apporte, révèle au public les faces cachées de la réalité. Il faut ça, il faut que les romanciers fassent leur travail sur le douloureux passé de l'humanité, le fascisme, des dictatures qui sont là, jusqu'à présent. On ne va pas répéter la fameuse phrase de Bertolt Brecht, le ventre encore fécond de la bête immonde est sorti. Mais il est évident que si on ne nettoie pas ensemble cette mémoire ancienne du fascisme, de la dictature, eh bien, ce sera le recul en permanence.
Donc, Tiananmen et Ninbo, vous prenez le relais des historiens par la fiction. Sans doute, en effet, parce que la littérature donne un autre point de vue et incarne ce que les livres d'histoire ne peuvent pas. Et ici, cette tragédie est endossée par deux femmes. Nous y reviendrons en deuxième partie parce que leurs trajectoires, comme je le disais, sont en miroir l'une de l'autre. Mais surtout, deux femmes d'aujourd'hui. Une partie de votre roman se déroule à Paris dans les années 2010. Est-ce que c'était aussi pour dire que le passé a toujours un écho dans le présent et qu'il y a des milliers de personnes qui souffrent encore de ce qu'elles n'ont pas pu raconter?
Mais bien sûr, je pense que ces deux femmes, ce sont les deux grandes victimes du Kambé, du Kambwaru, la Blanche, Madame Kor, et la Guinéenne, Véronique Bangoura. Et ces deux femmes se rencontrent par hasard devant une librairie, devant une pâtisserie. Madame Kor entend cette jeune femme parler au téléphone dans la langue guinéenne, en peul, en soussou, en malinké. Et elle s'approche doucement d'elle, elle dit « Mais vous êtes guinéenne ?» Et là, tout au long des pages, on se rend compte que ces deux femmes ont des secrets, presque inavouables, mais en même temps, ces secrets sont liés. Tous ces secrets viennent du camp B, du camp Boiro. Et Madame Kor a vécu en Guinée longtemps, et c'est marié qu'un Guinéen, il est allé en Guinée, il y a vécu, et il a laissé un enfant, parce que son mari était pendu devant elle, son enfant lui a été arraché, il a envie d'en parler, elle n'ose pas en parler, elle ne peut pas en parler, physiologiquement même elle ne peut pas en parler. Elle rencontre cette fille, elle devine tout ce qu'elle a souffert, elle veut la pousser à raconter, elle, sa vie. Mais la fille lui dit, mais pourquoi voulez-vous que moi je raconte, et pas vous? Ça commence comme ça. On se rend compte au bout des pages que les deux histoires sont communes. Ce sont deux vies parallèles qui ont vite fait de se rejoindre.
Et qui montre à quel point, pendant des années et des années, elles ont gardé en elles un secret qui finalement a été un peu comme un poison. Et c'est ce dont nous allons parler. Mais maintenant que les contours historiques de votre roman ont été posés, j'aimerais avec vous faire une pause musicale, Tierno Monenembo, sachant qu'il y a beaucoup de références dans votre roman à des chansons, à des airs d'opéra, des artistes aussi différents que Johnny Pacheco, Gainsbourg, en passant par Gianni Esposito. Je me demandais quel titre vous aimeriez maintenant écouter sur RFI avec nos auditrices et nos auditeurs.
Ah, Gianni Esposito, j'aime beaucoup cette phrase où il dit « Et pour tuer, il faut être calme et lucide ».
Et ça, c'est extrait d'un titre en particulier ?
C'est celui de El Nostro Signore.
Alors, on va écouter ça.
Un noble rossignol à l'époque Ming, à moins que ce ne fût à l'époque Tsing, apprenait sur un arbre artificiel, dans une cage d'or, l'hymne officiel. À la liberté, à la liberté. Comme mes fils est un capouné, comme mes fils est un capouné, ils avaient faim et soif. Ils étaient des milliers, on a tiré en l'air pour les intimes, 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 intimidés. Pour les intimes, 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 intimidés. Bou, 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 bou. Simplement, comme on tire au fusil dans la vie, mais l'un d'eux se blessa dans sa sauvagerie à mort. Aussi vrai que la foule est un enfant, qu'il ne faudrait jamais laisser seul un instant. Que dis-tu, rossignol, oiseau de bon augure ? J'écris l'histoire. Ah oui, eh bien bonne écriture. Un rossignol du peuple à l'époque Ming, à moins que ce ne fût à l'époque Tsing, qui avait le désir d'égayer la terre, répondit par un chant révolutionnaire. À la liberté, à la liberté. Ta 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 la li la li la li la li pété. La li la li la li la li la li la li pété. Comme bébé c'est un capoulet, comme bébé c'est un capoulet. Nous avions faim et soif. Nous étions des milliers, ils ont tiré en l'air pour nous intimes, 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 intimidés. Pour nous intimes, 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 intimidés. Calmement, comme on tire au fusil dans la vie, l'un de nous fut blessé par tant de courtoisie à mort. Aussi vrai que la foule est trop timide, et pour tuer il faut être calme et lucide. Que dis-tu, rossignol, oiseau de bon augure ? J'écris l'histoire. Ah oui, eh bien bonne écriture. L'un voulant comme l'autre égayer la terre, chacun a son idée, à sa manière. De rossignol chantait à l'époque Ming, à moins que ce ne fût à l'époque Tsing, à moins que ce ne soit au jour d'aujourd'hui. Ta 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 ta.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI et sur cette chanson de Gianni Esposito choisie par notre invité Tierno Monenembo qui vient de publier Saharienne Indigo aux éditions du Seuil. L'histoire d'une rencontre hasardeuse à Paris, on l'a dit, entre deux femmes qui aujourd'hui ont un certain âge. L'une guinéenne qui s'occupe d'un homme en fauteuil roulant et l'autre française un peu bohème, mystérieuse. Jusqu'au jour où, comme vous nous l'avez raconté tout à l'heure, la deuxième aborde la première parce qu'elle l'a entendue parler dans cette langue qu'elle connaît pour avoir vécu en Guinée. Et voilà que les confidences commencent à se murmurer, le passé à se dévoiler. Et d'abord celui de Véronique Bangoura, qui pendant longtemps pensait qu'elle s'appelait Atou Oulare, la fille d'un homme commissaire qui pourtant tentera de la violer et qu'elle tuera à 15 ans pour se défendre. J'ai l'intuition que vous ne parlez pas de ce sujet par hasard, Tierno Monenambo, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez très sensible, voire en colère, contre ces actes d'agression sexuelle sur les jeunes filles qui semblent se multiplier ces derniers temps. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, j'ai fait une chronique il n'y a pas longtemps là-dessus, en Guinée, puisqu'aujourd'hui, un médecin légiste a dit que rien qu'en 2021, il y a eu 390 viols. C'est des jeunes filles de moins de 15 ans. Donc j'ai fait une chronique là-dessus il n'y a pas longtemps. Et de toute façon, la dictature en tant que telle est un viol. C'est le viol de la conscience, c'est le viol de la morale, c'est le viol de la loi. La dictature, c'est la pire injustice au monde. La dictature, c'est la barbarie au sens vrai du terme. Et ils ont violé tout le temps le peuple de Guinée. Les femmes, les enfants, les vies, les intelligences. Et c'est tout un grand violeur. C'est un sanguinaire, ce monsieur. Il a tué le peuple de Guinée. Il n'a pas tué que de Guinée, il a tué la Guinée. Si la Guinée ne fonctionne pas, c'est parce que c'est tout l'a tué. Voilà.
Mais comment est-ce que vous expliquez cette situation aujourd'hui et pire, son aggravation ?
La dictature fonctionne un peu comme la génétique et se reproduit. C'est très difficile de sortir d'une dictature, surtout les dictatures staliniennes. Parce que nous, Guinéens, on a copié les soviétiques. Regardez l'Union soviétique aujourd'hui, elle ne s'en sort pas. L'Algérie, la Guinée, le Zimbabwe, l'Angola, tous ces pays qui ont suivi le système stalinien sont exactement dans la même situation. C'est le patinage historique. On ne s'en sort pas. Le dictateur reproduit le dictateur. Le milicien reproduit le milicien. Le mensonge reproduit le mensonge. La délation reproduit la délation. Et la torture reproduit la torture.
Vous avez toujours mis en avant dans vos livres, de toute façon, les figures féminines. Pourquoi ? Parce qu'elles sont invisibles, selon vous ? Parce que ce sont les premières victimes, justement, de ces sociétés dictatoriales ?
Les deux, parce que là, c'est les premières victimes. En plus, l'espoir vient de la femme. Parce que c'est elle qui a la puissance de la révolte. C'est elle qui peut un jour, donc on lui donne un minimum de conscience dans la tête, se révolter. Parce que c'est sur elle que reposent tous les problèmes de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est la femme.
Le problème de l'Afrique, c'est la femme ?
Absolument.
Dans quel sens ?
On a mis de côté nos femmes. On les a marginalisées, on les a réprimées, on les a dominées. C'est la moitié de la population. On ne peut pas avancer en laissant de côté la moitié de la population. Et en Guinée, j'ai fait un papier il n'y a pas longtemps, une chronique qui dit « La Guinée est un enfer pour les femmes ». Ce qui est vrai. Et le pire ennemi en Guinée pour la femme, c'est le papa.
C'est terrible.
C'est terrible. C'est lui qui donne le mari à sa fille dès l'âge de 12, 13, 14 ans.
Et qui les sort de l'école.
Voilà, qui sort de l'école, pas d'éducation, pas de modernisation dans la tête. Et elle est mariée, 12, 13, 15, 20 ans, elle a 3, 4 enfants, elle est répudiée. Parce que en Guinée, la femme, c'est du Kleenex, on s'en sert, on jette, c'est exactement. Et c'est le père même qui organise ça. Ce qui fait que toute la société est en panne, parce que la moitié de la population est marginalisée et écrasée. Bâillonné.
Vous êtes un militant de la cause féministe ?
Je ne suis pas militant de la cause féministe. Je pense que cette femme est même de se défendre. Mais je comprends très très bien cette cause-là. Je la défends à ma manière. Je pousse les femmes à se révolter.
À l'image donc d'Atou ou Véronique, qui est fugitive puisqu'elle a tué son père. Merci. Elle se cache. Elle travaille comme hôtesse dans une discothèque. Oui. Elle aura un enfant toute seule. Oui. Jusqu'au jour où elle apprend donc de la bouche d'un homme qui porte une saharienne indigo, d'où le titre de votre roman, qu'elle est née au camp B d'un couple qui a été assassiné. On peut dire que le malheur n'est pas avare avec votre narratrice qui porte sur les épaules tellement de drames et de choses lourdes. C'est comme une allégorie de la Guinée, Tierno Monenambo.
Je m'étais fait un défi en arrivant en Guinée, j'ai décrit un roman. C'est toute la douleur guinéenne depuis 1958, une douleur portée par une jeune fille d'aujourd'hui, Pernik Bangoura qui porte sur elle tous les malheurs du pays. C'est ce que je voulais faire. Et c'est vrai que la Guinée, c'est une mémoire douloureuse depuis l'indépendance de 1958. D'autant que c'est une douleur inavouée. On n'ose même pas en parler. Les victimes de Cambaro, j'ai rencontré une il n'y a pas longtemps, qui est venue me dire en tremblant, comme ça, j'ai fait 12 ans au Cambaro. Et ces gens-là, il faut qu'ils parlent, enfin. Il faut qu'ils sortent de l'ombre. Il faut qu'ils disent, qu'ils affirment leur douleur. Leur douleur, c'est la douleur nationale. Et cette fille, pour moi, c'est la douleur du pays. Et ce n'est pas seulement de la douleur du pays, mais de la douleur d'une époque. Une époque terrible, où l'amour est empêché. Et tous ces gens, tous ces personnages, que ce soit Madame Corr, que ce soit Philippe, que ce soit Félix Bangoura, étaient en quête d'amour, en quête même d'idéal. Ça ne marche pas, parce qu'il y a une espèce de panne, quelque part, comme si la société avait disjoncté. Même pas la société, mais la civilisation humaine. Et ça, ce sont les victimes de leur propre époque.
Parlons de Madame Corr, justement. Elle aussi, elle a connu les horreurs du Cambé, puisqu'elle a aimé un Guinéen dont elle a eu un fils, mais elle a vu son mari se faire pendre publiquement. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, cette Française, Tiernomone Nambo ?
Pour moi, c'est un peu la mort de l'idéal. Cette fille est un peu 68 tarde. Elle avait 18 ans quand elle a connu son monsieur. Son père est un communiste. Son mari aussi est communiste. Ils sont connus en lisant les Nazim Hikmet, en lisant Walt Friedman, etc., etc. Et ce sont des idéalistes. Ils voulaient changer le monde. Cette fille est partie là-bas amoureuse d'un homme, mais aussi amoureuse d'une idée. C'était l'idée révolutionnaire de cette époque-là, le romantisme révolutionnaire. Tout cela crève, tout cela se casse, tout cela se brise. Et toutes ces personnes-là sont les victimes de la mort de cet idéal-là. Philippe aussi, c'était 68 tard, aimant le genre humain, aimant les belles idées, aimant, voulant sauver les victimes des différents camps, au Chili, au Cambodge, en Birmanie, en Guinée, au Congo. Et il se retrouve sur une chaise roulante, stupidement. Parce que l'époque est bête, l'époque est méchante. Ce n'est pas forcément les hommes qui le sont, mais l'époque est mauvaise.
Philippe, je le précise pour nos auditeurs et nos auditrices, et sera le futur mari de Véronique. C'est un Français qui a fondé une association Mémoire Vive pour dénoncer les camps de concentration partout dans le monde et qui va tendre la main à Véronique quand elle va découvrir son passé et qui va l'aider à rencontrer sa grand-mère et sa tante qu'elle n'a jamais connue. Alors néanmoins, ces deux femmes, elles résistent à leur mémoire. Les mots ont du mal à sortir, avec toujours en fond la tentation de ne rien dire, de ne rien raconter à la nouvelle génération, de rester dans le déni. Et au fond, vous, Tiernomone Nambo, avec ce livre, vous dites exactement le contraire. Il faut parler.
Il faut parler. Il faut que les victimes de tous les camps du monde parlent. La tyrannie, c'est dangereux pour nous tous. La plus mauvaise des démocraties vaut mieux que la tyrannie. Quand je vois ici en France des amis français se moquer, il y a tout le folklore, c'est du débat, ça ne veut rien dire. Mais c'est important le débat qui ne veut rien dire. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est quand n'importe qui raconte ses propres conneries. Mais chez nous, on n'écoute que les conneries d'une seule personne. Il faut que les conneries soient dites par chacun. Et la démocratie, c'est un trésor qu'il faut défendre dès maintenant, pour nous tous. Parce que c'est fragile, la démocratie. Très fragile.
Donc c'est aussi un roman politique.
Oui, bien sûr. Mais c'est politique, moi. Mais je suis très politique. On ne peut pas faire de la littérature sans politique. C'est impossible. Mais il faut la conscience politique est indispensable. Il faut bien qu'on aille... Je pense, moi, que l'histoire est une pente. Cette pente va vers la démocratie universelle. Il faut... Les dangers sont là, en permanence. L'intégrisme musulman est là. Il y a toutes sortes. Le fascisme ambiant, rampant, est encore en Europe. Il faut que les démocrates du monde entier se réunissent. Il n'y a pas un lieu de rassemblement aussi démocratique que le roman. Il n'y en a pas.
Encore un mot. Ces deux femmes sont en exil d'une certaine façon. Est-ce que vous vous êtes inspiré ou est-ce que ça renvoie à votre propre exil tel que vous l'avez connu, Tiernomone Nambo ?
Plus ou moins. D'autant que je raconte une histoire qui se passe dans un quartier où j'ai vécu quelque temps. le 5e arrondissement, à la place Monge, j'allais souvent, donc ça a commencé à la place Monge, parce que la place Monge est dans ma mémoire. C'est pas pile à fuir cette place, et s'est imposée à moi. Et cette femme, Madame Corr, s'est imposée, je ne l'avais pas prévu, j'avais prévu Véronique Bangoura, mais je n'ai pas prévu Madame Corr, et s'est imposée à moi, comme ça. Parce que je suis passé par là.
Et donc, ces deux histoires, ce présent, ce passé, et pour les lier, la littérature. Mais est-ce que l'écriture, Thierno Monnet-Nimbo, en ce qui vous concerne, attise le feu de la colère ou au contraire apaise, soulage ?
Oh, moi, je préfère la colère à l'apaisement. La colère est saine. L'époque incite à la colère. Vous savez, un jour, au Théâtre de l'Odéon, on avait un débat culturel. Il y avait un grand poète français que j'adore, qui s'appelle Bernard Noël, qui a dit, entre le pessimisme et l'optimisme, je préfère le pessimisme. Parce que le pessimisme, lui, mène à la colère. Et moi, j'adore la colère. J'ai une chronique en Guinée qui s'appelle « Colère ». J'aime pas la haine. Je ne suis pas haineux du tout. Mais j'aime être coléreux. Il faut crier, il faut jeter à la gueule de cette époque. Il faut cracher dessus, il faut dire sa colère.
Donc vous êtes en colère, mais est-ce que vous êtes fâché avec la Guinée ?
Complètement, à 100%. Pas la Guinée en tant que peuple, mais la Guinée en tant que système politique. Nous n'avons eu que des idiots au pouvoir depuis l'indépendance. Des idiots, sans vrai du terme. Des gens sans esprit, sans cœur, sans morale, sans vision. Ils ont fait ce beau pays, cette ordure d'aujourd'hui.
Et pourtant, aujourd'hui, vous vivez à Conakry ?
Je vis à Conakry, je le dis, en permanence. J'ai des chroniques, je dis ce que je veux.
Parce que vous aimez aussi les Guinéens et les Guinéennes ?
J'adore les Guinéennes, surtout les Guinéennes. Les Guinéennes sont formidables, elles sont courageuses, c'est elles qui nourrissent le pays, c'est elles qui tiennent le pays. C'est elles qui se lèvent à 5h du matin pour vendre les petits fruits, les légumes, les machins, nous, leurs enfants, les amener à l'école. C'est, sans elles, il n'y aurait pas de Guinée. D'autant que, vous savez ce que ça veut dire Guinée ?
Non ?
Ça veut dire femme, la langue soussou. La Guinée, c'est la femme.
Est-ce que vous aimeriez, Thierno Monnet-Nimbo, être plus lu en Guinée ?
J'aimerais, mais c'est difficile d'être lu en Guinée. Il n'y a pas de librairie, ou très peu. Le livre coûte cher. Les enfants qui aiment lire n'ont pas d'argent. Et rien n'est fait en Guinée ou en Afrique, de manière générale, pour encourager la lecture. Le livre est dangereux pour nos dictateurs. Le livre est dangereux dans le monde entier, d'ailleurs. Il est dangereux, le livre, parce qu'il aide à penser, il aide à être libre. Et l'homme qui pense, l'homme qui est libre, est un homme dangereux pour toute dictature.
Donc il faut continuer d'écrire plus que jamais.
Absolument. C'est un devoir dorénavant, un devoir impérieux.
Merci beaucoup.
Merci.
Thierno Monnet-Nimbo d'être venu au micro de Littérature sans frontières nous parler aujourd'hui de ce nouveau roman très important, Saharienne Indigo, publié aux éditions du Seuil.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.